3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Data.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais.
Bonjour tout le monde et nous voici assis dans le gazon à Ticonderoga, New York. La convention tire à sa fin. On a décidé de prendre un peu de temps pour parler de ce qu'on a fait ce week-end. Donc, je suis en compagnie de Marc et de...
Bonjour!
Et de André.
Hello!
Donc, aujourd'hui, notre week-end a commencé un peu tard vendredi. On est arrivé vers 8h30. On est arrivé juste à temps pour jouer au mini-pot. On était la dernière équipe à participer au mini-pot. On a joué terriblement et horriblement mal.
Ils ont joué terriblement mal. Moi, j'ai très bien joué.
Et j'ai fait découvrir Carl Carmoni au propriétaire du terrain Minipot aussi. Notre héros national du Minipot au Québec. Sinon, outre cela, donc un week-end quand même relativement relaxant comparé à, comparé à Vegas.
Ben, si on compare à Vegas cette année, j'avoue que la convention est un petit peu calme comparée à l'année dernière. J'avoue que l'année dernière, c'était le premier Ticonderoga sous la licence CBS. Alors, cette année est quand même assez calme, même s'il y avait deux gros noms en Cal Urban et Gate McFadden. C'est sûr que cette année, il y a eu moins de guests séparés. Alors, l'année passée, on avait quand même Nichelle Nichols, puis Walter Koenig, qui étaient les grosses vedettes, mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient joué dans les séries. Alors, peut-être c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de monde. Mais oui, si on compare à Vegas, on n'a vu personne. Mais c'était le fun de voir plusieurs personnes qu'on avait déjà rencontrées. On les a revues, on a eu du plaisir. On a eu une belle convention.
En effet. Et on parle de Gates McFadden et Carl Urban. Moi, ma grande révélation de la fin de semaine, c'est Robin Curtis, celle qui jouait Savick. Elle est comme entièrement l'antithèse du personnage. C'est une personne qui est extravertie. Justement, j'ai passé un bon lunch avec. Hier, on a vu son panel, donc c'était sympathique. On a jasé, elle a parlé un peu du processus de casting pour Star Trek 3, parce que c'était elle puis juste Leonard Nimoy, lui, d'être dans une salle avec 10 personnes. Là. Leonard Nimoy avait enregistré son audition qu'il avait faite tout seul avec lui, puis ça l'a évité d'avoir à refaire le processus d'audition 3-4 fois, donc... Quelque chose quand même de très intéressant à savoir. Malheureusement, en fait, il y a une chose que, tu sais, Walter Koenig lui avait dit, prends des notes, fais-toi un diary, fais-toi un journal de bord de tes expériences. Mais chose qu'il n'a pas faite et qu'il regrette maintenant de ne pas avoir faite, là. Donc, c'est ça. Comme je dis, c'est une personne super. Elle reste dans le coin, dans une petite ville, là, dans l'État de New York. Donc, pour elle, c'est pas super loin. Elle était supposée venir l'année dernière, mais malheureusement, il y a eu un empêchement, mais elle s'est reprise cette année. Donc, et ce ne serait pas surprenant de la revoir dans les années futures.
Parce que si je ne me trompe pas, elle a dit que l'année dernière, elle avait reçu son frère et les multiples enfants. Alors, c'est pour ça qu'elle n'était pas venue, parce qu'elle faisait plaisir de recevoir beaucoup de monde, parce que ça mettait de la vie dans sa maison.
Sinon, ben Marc, t'as eu une certaine chance hier. Alors que moi, j'étais en train de donner mon panel sur Discovery, t'as pu parler à Gates McFadden. En fait, toi et André avaient eu l'occasion d'aller à un petit événement de presse avec elle. Puis tu me racontais comment ça s'est passé.
Comment ça s'est passé, tout simplement? On est arrivé à l'endroit tant attendu au 7 tour. On a attendu quelques minutes et là, Mary Beth est venue nous chercher. Puis on nous a dit... vous avez une question, présentez-vous, puis tout ça. Moi, on arrive dans les... On était les deux premiers, je pense. On arrive les deux premiers, puis j'ai dit qu'on n'était pas par l'entrée. Déjà là, elle me répond en français. Elle était très heureuse de nous parler en français. Alors, puis là, quand elle a vu qu'on allait prendre des photos, elle n'était pas au courant, parce que normalement, on n'était pas supposé de prendre de photos, mais moi, arrêté, il était juste sur le gimbal, puis si on ne devait pas prendre de photos, j'en aurais pas pris, tout simplement. Alors, on s'était fait un test de photos, puis là, ça paraissait bien, puis comme elle paraissait comme mal, parce qu'il y avait de la lumière verte, on voit qu'elle était productrice. Alors, elle savait où aller. Elle est allée à la bonne place, on a une bonne lumière, puis on a pris des belles photos avec elle. Puis, rendu à mon tour de poser ma question, j'ai posé ma question en français, elle a répondu. On a eu plaisir, j'ai été chanceux. Elle m'a complimenté sur mon skent. Il pogne toujours, mon skent. J'adore porter mon skent. Mais alors, c'est une femme magnifique. Je suis heureux. On a appris qu'elle est très ouverte à reprendre son rôle de Beverly Crusher ou peut-être Beverly Picard, comme le monde aimerait que ce soit. Mais espérons que ça se réalise. La balle est dans le camp de CBS présentement.
Ben merci. Sinon, autre chose qu'on a vu hier, on a vu il y a Michael et Denise Okuda qui ont fait une présentation sur principalement sur Trials and Tribulations. En fait, ça couvrait un peu les trois occasions qui ont eu à recréer le décor original dans Relics de Next Generation, dans DS9 et dans Enterprise avec In the Mirror Darkly. Donc, ça a été le travail a été en... On partait dans Relics avec juste une petite partie de console puis une chaise. Où ce que dans Trials and Tribulations, il y a vraiment fallu qu'il recrée beaucoup plus de corridors. Puis encore une shot de plus là, dans Enterprise. On a même vu un petit peu de vidéos inédites, là, des bloopers et des scènes alternatives. Là. Ah, puis des tests de visuels, là, où ce que, juste pour montrer que c'était possible d'intégrer des gens là, dans des scènes existantes. Là.
Le petit blooper avec Terry Farrell, ouais, elle était vraiment très drôle comme fille. Ça me fait rire.
Sinon, après ça, il y a eu la session avec Gates. Quel genre de... Elle parlait un peu de son passé producteur, ses expériences.
Ben, c'est sûr qu'on est habitué beaucoup qu'elle parle de ça, mais... Comme c'est un animateur qui animait, puis elle était directement sur la scène, assise sur la table, puis elle a simplement commencé à répondre à des questions, puis à jaser avec nous autres, puis son expérience de Star Trek, puis elle nous a appris qu'elle connaissait pas vraiment Star Trek au début, c'était comme très différent pour elle de tout apprendre, elle s'est renseignée, puis... Elle s'est rendu compte que quand même, après quelques épisodes, que Star Trek, c'était un culte. Alors, ben, elle adore ça maintenant, puis elle comprend la philosophie Star Trek très, très bien.
Oui, ben aussi, je trouve une question qui a été intéressante, c'est par rapport à son fils, là, comment que jouer une mère, ça lui a éventuellement donné une perspective quand elle-même a eu un enfant plus tard, là, donc... par rapport à l'interaction avec l'enfant, comment c'était pas nécessairement bien représenté dans Star Trek. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Fait que, non, ça, le samedi matin, ça a été chargé, fait que c'est ça. On a eu Okuda's, Gates McFadden, et ensuite, on a eu notre talk avec Robin Curtis. Puis ben, Robin, elle nous a présenté son one-woman show, la vie sexuelle d'une femme de 63 ans. C'est resté à l'introduction, ça parle un petit peu de sa jeunesse. Elle nous a aussi présenté ses vieux bulletins d'école, c'était vraiment cute, c'était vraiment sympathique.
Ses vieux bulletins, c'était vraiment très drôle, puisqu'elle nous expliquait que ce qui revenait à peu près dans tous les bulletins, c'est qu'elle était « too fast, too fast, too fast », puis elle manquait de concentration.
Ouais, donc trop rapide, mais en même temps, très serviable, mais tu sais, elle avait des bonnes qualités, mais en même temps, c'est au point où éventuellement, un de ses ex-maris lui a demandé s'il n'était pas hyperactive.
Ouais, justement, quand il a demandé s'il était hyperactive, elle nous a fait à peu près ce qu'elle a fait là-bas en nous montrant les doigts d'honneur qu'elle aurait probablement fait là-bas.
Sinon, autre cela, ben c'est ça. Pas mal tranquille. Moi, c'est ça. J'ai eu mon talk avec The Discovery. C'était une 15-20aine de personnes qui étaient là. On a jasé. J'avais une petite introduction de préparer. J'ai mis en contexte là, la série là, par rapport à l'histoire de la télévision un peu, à l'historique au niveau de la production, parler de c'est quoi qui est canon, c'est quoi qui n'est pas canon. Puis on a parlé de la série. Donc, mais c'était tous des gens qui étaient positifs, vraiment, par rapport à Discovery. Il y en a un qui avait pas regardé la série, mais qui s'était pointé vers la fin, qui avait mentionné qu'il n'y avait pas juste... Autant que c'était pas un fan de Trump, mais le fait que les producteurs avaient mentionné que les Klingons seraient comme un peu... représenteraient les fans de Trump, tout ça, ça l'avait comme mis un petit peu contre la série. Mais comme on s'est comme mis en groupe pour y dire « ça va être correct à la deuxième saison, inquiète-toi pas » ou « si tu regardes la série, pense pas à ça ». Mais non, la conversation était très positive, très constructive aussi. J'ai bien aimé et j'espère pouvoir répéter l'expérience l'année prochaine en étant un petit peu plus préparé maintenant que je vais continuer à me douter que ceux qui vont se pointer à une conversation sur Discovery vont être des gens qui sont positifs par rapport à cette série-là.
Ouais, j'ai aimé justement, je pense que c'est l'homme en blanc que tu parlais qui avait pas vu la série, mais au moins il a commandé le Blu-ray. Ok, c'est un autre, ok. Comme t'es arrivé malheureusement juste à la fin, on n'a pas tout pu voir, mais c'est assez intéressant.
Ça, parce que j'avais passé le commentaire qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, ben je vais attendre que ça sorte en DVD, je ne veux pas payer pour CBS All Access. » Puis je suis vraiment content parce que j'avais parlé de mettre, comme on dit en anglais, mettre son argent là où sa bouche se trouve. Et en fait, ça, il a vraiment précommandé. Fait que ben, c'est tant mieux, c'est le fun de voir que la chambre à écho de l'Internet, parfois justement, n'est pas représentative, là. Autant qu'on pourrait le croire. Ça a pas mal clos la journée. On a été souper au Hot Biscuit. On a pris un vrai barbecue américain avec du porc effiloché, des ribs, un petit peu de macaroni au fromage, puis un gros dessert à cochon.
Et le petit gâteau, le corn muffin.
Ouais, une espèce de muffin au maïs. Ouais, c'était délicieux. Ça a bien rempli, on va juste dire ça demain. Et on était par la suite à Gaze in Space. Évidemment, le manque d'un club gay, ou en fait d'un club, d'une discothèque, point, dans la ville, a forcé les organisateurs à trouver une alternative. On est allé au Libby's Café, Bakery Café. On était quand même une bonne petite vingtaine de personnes. C'est un peu cher pour 20$ US parce qu'honnêtement, c'était vraiment comme juste être là puis jaser avec du monde, se préparer en photo puis c'est pas mal ça. Il y avait un DJ sur place. Mais bon, écoute, l'argent va une bonne cause. Puis...
Je sais que le DJ, c'était quand même le DJ qui fait Fanboys, le podcast Fanboys. Fanboys Radio. C'est une radio, OK. Mais eux autres, ils se promènent quand même. J'avoue que peser sur play pour faire jouer le disque de dans une galaxie, pas dans une galaxie près de chez vous, dans un Guardian of the Galaxy. C'est drôle, mais tu sais, on a eu du plaisir. J'ai aimé ça, gars. Étant hétéro, moi, être là, je me suis senti très bien. Mais je sais pas si le monde sait que je suis hétéro dans la gang, mais... Mais, tu sais, on a eu du plaisir. J'ai aimé ça prendre la photo de gang avec les Okudas, puis avec Matt... voyons, j'allais dire Matt Jeffries, mais le fils de Pike, Chris Hunter. Alors, c'était vraiment intéressant. J'ai gagné un prix. J'avais le choix entre un gazer et ou un tiki... tiki
un
organ. Mais c'est on a eu du plaisir, c'était le fun. C'était pas long. Puis après, je vais laisser JP raconter aussi.
Ben c'est ça. Fait que ouais, non, c'est ça. Honnêtement, j'ai pas grand chose de ça. Il y avait des prix sur place, puis c'est pas mal ça. Mais en même temps, ça, je veux dire, l'argent était à la bonne place, puis c'est ce qui compte. Après ça, ben on on a été au dépanneur et on a été prendre un petit verre sur la terrasse du motel avec M. Spock. Notre grand ami, Paul Forrest. 6 et 8. Qui confirme que sa grandeur, là, donc ceux qui connaissent Spock Vegas, donc c'est un Québécois qui vient de Boucherville, je crois. Oui, c'est Boucherville. Et ça, il nous racontait, là, il y a même un grand projet de film pour l'année prochaine. Donc, en fait, tu nous avais... Il ne faut pas en parler, mais on va dire. Ouais. Mais non, c'est ça. Donc, il nous a parlé de différents projets, mais c'est ça. Mais ça fait quand même drôle d'entendre Spock parler avec un gros accent québécois, tu sais.
Ouais, surtout que ça lui fait vraiment plaisir de parler québécois, puis il n'est pas habitué de parler en québécois dans des conventions. D'ailleurs, on prenait une belle petite crème molle. Lui, il s'est pris un milkshake et chocolat à la menthe. Alors, c'était très drôle de le voir en uniforme des films, du premier film de Motion Picture, de ses 6 pieds 8 avec son milkshake en train de le siphonner devant le dépanneur.
En fait, c'est le deuxième film, mon cher. Parce qu'on a l'uniforme qu'on appelle un Monster Maroon. Parce que ben oui. Et voilà, oui, c'est les uniformes moches beige dans le premier. Mais sinon, ben aujourd'hui, ben on a eu de la chance. On est vraiment comme été très chanceux parce que normalement, on aurait dû avoir un press pool comme pour Gase McFadden, mais avec Carl Urban, on aurait pu avoir une question. Mais malheureusement, ça a été cancellé parce que ben Carl Urban était en retard, son vol, toute l'histoire. Donc, tout a été repoussé, puis ça a forcé la cancellation du press pool. Cependant, Mary Beth, je ne sais pas si parce qu'on... En tout cas, elle nous aime. On va juste dire ça, elle nous aime.
Oui, elle nous aime, mais également, on a été chanceux quand même de décider d'aller au 7 tours avant.
Ouais.
Parce que normalement, le press pool, il était un petit peu vers midi, puis on est allé vers 10h30, et on est arrivé vraiment au bon moment, là.
C'est ça, parce que je voulais juste m'assurer que, bon, tout était à l'heure ou whatever. Puis finalement, ben, elle a fait comme, toi, tu viens ici, tu fais le tour à Carl Urban. Je fais comme, j'ai fait, OK. Puis ben, moi, Marc puis André, on est entrés. Ben là, André, pas parlé beaucoup, là. T'as pas grand-chose à dire, mais parle-moi, qu'est-ce que t'as vécu avec Carl Urban, là? Non? Aïe. Non, mais la visite avec Carl Urban, c'était quand même intéressant. Honnêtement, il y avait un petit peu plus de... Ils ont pris leur temps ce coup-ci parce que c'était ça a quand même pris un petit peu plus de temps qu'une visite régulière, là.
Ouais, un petit peu plus de temps, un peu moins que quand on avait fait Denise Okuda, Michael Okuda puis Doug Dressler l'année dernière. Mais il a eu du plaisir. Il a posé lui-même plein de questions étant un vrai fan, là. On voit que lui, il connaissait Star Trek avant d'avoir joué dans les films. Alors, lui, puis il était un fan de TOS de toute façon. Il posait des questions assez précises sur certains épisodes de TOS. Alors, c'était pas mal intéressant. Puis, comme je me suis ramassé une fois complètement à côté de lui, j'ai pu comparer ma grandeur. Il me dépasse de 2 pouces, à peu près à 5 cm. Il est grand.
un grand Australien. Ben non, c'est ça. Donc, ça ben, quand on fait une visite avec une vedette, là, c'est parce que j'avais jamais fait l'expérience avant, mais c'était la seule expérience qu'on avait, c'était avec les Leocudas, quand on fait une visite spéciale. Mais avec un acteur, là, c'est vraiment... il fait la visite avec nous. Et c'est pas genre... C'est pas l'acteur qui guide la visite. Il faut quand même gérer ses attentes à ce niveau-là.
Puis justement, les deux animateurs qui étaient avec nous, lui posaient des questions si, lui, lors de ses propres tournages, il avait pu vivre quelques affaires, comme on était dans la pièce de téléportation. Alors, il demandait, il nous expliquait comment ça se passait, la téléportation. Il fallait qu'il fige, puis là, il faisait la scène de téléportation. Il bloque, il changeait, puis là, il allait prendre les rôles ailleurs, mais lui, il pouvait expliquer que lui, eux autres, avec le post-montage, ils pouvaient complètement continuer à faire leur mouvement puis finir leur mouvement ailleurs. Ça se faisait bien.
Ouais, on a aussi, parlé des lens flares, des petits jets de lumière avec un petit bout de vitre qui mène devant la caméra. Il a parlé des planchers en linoléum quand on a parlé des tapis dans le corridor. Fallait qu'ils mettent des petits bottillons protecteurs par-dessus leurs bottes pour empêcher de... Pendant les pratiques, en effet, pendant les répétitions, pour éviter d'endommager le plancher. Puis ben, c'est drôle parce que c'est pas Carl Urban qui a fait ce commentaire, mais c'est le fils de James Colley qui gérait la visite. Parce que lui, il avait été sur le tournage de 2009 parce que James Colley avait fait un petit walk-on role dans le film de 2009. Puis son fils, je ne rappelle même pas de son nom, je suis désolé, mais il avait fait la remarque que quand il essayait de filmer une scène sur la passerelle, il entendait un bruit, puis il ne savait pas c'était quoi. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte, après un peu de temps, que c'est les gens en arrière, je pense en arrière du décor ou d'un corridor en arrière, qui marchaient, fait que là, ils ont fait comme « Personne bouge! » Là, ils ont filmé la scène, puis c'était quand même drôle à entendre. C'est le fun de voir que le fils de James a partagé sa petite expérience sur le tournage de 2009.
Puis après, moi, c'est sûr que c'était la première fois que j'y retournais depuis l'année passée. Au début, je voulais faire la visite, surtout pour aller voir les nouveaux ajustements au décor. Puis là, c'était vraiment intéressant. J'ai rien à dire. C'est quand même une visite qui, théoriquement, était quand même assez chère sur le visage. T'sais, je remercie encore Mary Beth de nous avoir pu faire cette belle petite visite. C'est ça qui est le fun. C'est le fun, une convention comme ça. Là.
Justement, c'est pas Creation qui nous aurait donné des freebies comme ça, ça c'est clair. C'est ça. Donc, sinon, après ça, ben moi, je suis retourné en vitesse pour mon lunch avec Robin Curtis. Justement, comme vous avez parlé un petit peu de son histoire de casting. On a parlé de théâtre. Quand on dit en français, un board of directors là, pour le théâtre à Syracuse. Encore là, je veux juste répéter, c'est une femme absolument fantastique et fascinante. Elle travaille maintenant à faire la restauration et la vente de maisons. Donc, elle est dans le marché immobilier. Donc, c'est pas mal ça, c'est un bon petit lunch. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, on est rendu vraiment présentement pas mal là. D'autres choses que vous vouliez rajouter?
Pour ceux, les Québécois qui nous écoutent, à la fin août l'année prochaine, venez faire un tour. On est super bien accueillis. Le monde est content et tout le monde, quand ils savent qu'on parle français, nous leur dire leur peu de français qu'ils connaissent. Bonjour, comment ça va? Oui. C'est toujours très drôle. On est toujours bien reçus, puis c'est plaisant. Puis on peut même s'arranger avec Mary Beth pour qu'on vous fasse le tour.
En français,
en plus. C'est sûr qu'elle va être probablement avec nous ou quelqu'un d'autre, mais on est prêt à vous donner le tour en français. On connaît assez d'anecdotes maintenant sur chaque place de la reproduction pour pouvoir vous en parler, pour vous faire une belle petite tournée. Alors, n'hésitez pas. Si vous voulez faire le tour, dites-nous-le. Si on est plusieurs, on va s'arranger. Puis c'est ça qui est le fun ici. C'est à 2 heures de Montréal. C'est à côté.
Oui, je réitère ce que Marc a dit. Donc, moi, personnellement, ça nous ferait plaisir. Là, ça serait le fun, justement. J'ai essayé d'arranger quelque chose l'année passée, mais on pourrait essayer pour l'année prochaine. Là, soit un minibus ou quelque chose, ou juste un convoi de voitures pour une petite journée à Ticonderoga, là. Un week-end, on part un samedi matin, puis on vient dans la journée, où on reste, on verra si au pire, s'ils font quelque chose encore à la Saint-Jean l'année prochaine, peut-être, pour être le fun. Mais non, c'est ça, toujours aussi sympathique. Et justement, on parlait de Québécois, j'ai croisé d'autres Québécois, du monde de Sherbrooke, du monde qui ont passé à l'As de la Brocante sur Canal Z. Donc, salutations, justement, il était avec moi au lunch ce midi. Donc, toujours le fun d'avoir des Québécois dans le coin. Là. D'autres choses à rajouter, Marc? Non? Bon, ben.
Là, on disait qu'on était rendu là, mais il nous reste une chose très importante à faire, c'est aller voir le petit guest talk avec. Avec Carl Urban qui devrait être dans quelques minutes. Alors, dans 1 heure. Je pensais qu'il était plus tard que ça. Alors, moi, je vous dis bonne journée ou belle soirée, parce qu'on devrait être mardi normalement. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci de nous écouter.
Encore là, même chose. Merci de votre écoute. Et on espère pouvoir vous voir à Ticonderoga. Super. Donc, un gros merci à tout le monde et on se reparle la semaine prochaine sur les ondes de puissance maximale. Vous écoutiez Parlons Trek.
Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? To hug the mountain. To envelop that mountain. Hug the mountain. To envelop that mountain. Hug the mountain. That mountain. That mountain. He wants to make love to the mountain. Tough young guys' sinewy bodies and their fingers and teeny toes challenge the rock, challenging death. Why do I climb the mountain? Because I'm in love. There is a passionate affair going on between Kirk and the mountain. Kirk is on the mountain. Now, in order to create that illusion, sucking some of the most sensational men who not only climb, are voracious, fleeting, and elusive, and peripheral, and that's putting me on the mountain. Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Hold it, please. Hug the mountain. Envelop that mountain. Hug the mountain. To envelop that mountain. Hug the mountain. That mountain. That mountain. He wants to make love to the mountain. And the climb is going where no man has gone before. Where no man has gone before. Challenge the rock, challenging death. Why do I climb the mountain? Because I'm in love.
Hi, I'm Mark from Parlons Trek.
And Mark,
oui.
C'est Mark?
Oui.
très, très mignon dans votre robe. C'est Merci. Incroyable. Robe de Star Trek, tout le monde. Alors, c'est vraiment
c'est quelque très chose. Rare pour la première saison de TNG.
Ah oui, bah, c'est super. Hein? Super. Oui. Oui. Et les jambes, tout le monde, les jambes de fantastique avec les chaussettes. Hein? C'est vraiment Star Trek. Hein? OK.
J'aimerais savoir, avec votre expérience de tourner les films et il y a la série, comment la série a changé votre vie?
Oh. Beaucoup, incroyablement. Parce que d'abord, je ne connais pas Star Trek, une mythologie de Star Trek. Alors j'ai dit, bon, okay, c'est comme toutes les autres choses, mais ce n'était pas ça, parce que c'est une série qui est vraiment important dans la culture américaine et maintenant partout un peu dans le monde. C'est la meilleure partie de la vision américaine dans le sens, c'est pas la vision de Trump, hein, mais c'est la vision de le monde peut être mieux que maintenant. On peut être très très tolérant des autres gens, des autres species, je sais pas le mot en français.
Les autres espèces.
Espèces, ok, d'accord, merci. Et toutes les idées, les possibilités, l'idée de l'univers, on a des autres gens comme nous, ou différents, mais alors ça c'est vachement intéressant. Et le fait d'avoir un groupe, une équipe qui travaille ensemble, qui s'aime bien, ça c'est extraordinaire. Même si on a des problèmes, c'est plutôt comme des gens qui disent, bon, il faut être positif, il faut trouver une solution, même si ce n'est pas parfait. Et c'est ça qui était très bien pour moi avec Crusher Verse et Jean-Luc Picard. Parce que c'était toujours quelque chose, on avait eu une chimie entre nous deux, mais aussi c'était un argument toujours, pour lui c'était le Prime Directive et pour moi c'était l'Hippocratic Oath.
Merci beaucoup.
Hi, I'm Elijah with Priority One. I have a feeling that my question might have been, is going to be very similar.
Well, I'm going to answer it in Russian.
Oh, excellent. I would appreciate Spanish. I would appreciate Spanish, but...
Oh, well, I know what I said.